Salut, c'est Mélissa.
Salut, c'est Manon.
Cette semaine, l'atelier des médias est en vacances, mais pas de panique, on reste quand même avec vous sur les ondes. Cette semaine, nous vous proposons de réécouter l'émission du 11 octobre 2014.
From WBEZ Chicago, it's This American Life, I'm Ira Glass. Okay, so for months around here at our radio show, we have all been preparing for this day today.
C'est étrange, cette voix qui commence à vous parler sans crier gare, sans même un bonjour. Si vous êtes comme moi, un passionné de radio et de podcast, vous aurez probablement reconnu Ira Glass, le présentateur de l'émission This American Life, cette vie américaine de la radio WBEZ Chicago. L'émission la plus podcastée aux États-Unis avec plus d'un million d'abonnés. J'ai découvert ce programme il y a près de 2 ans, ce qui est très tardif puisqu'il a été lancé il y a 20 ans. Depuis lors, je n'ai jamais manqué un seul épisode. Cette manière de commencer sans saluer, comme si nous étions en train de bavarder et que chaque semaine on continuait le fil de notre discussion, c'est cela qui m'a plu immédiatement et m'a d'ailleurs inspiré pour le début de notre émission, l'Atelier des médias. Mais si j'aime par-dessus tout This American Life, c'est pour sa forme. Ce magazine hebdomadaire d'une heure environ propose dans chacun de ses épisodes une série d'histoires autour d'un thème commun. La longueur d'une story, d'une histoire, varie de quelques minutes à une heure, voire 2 heures quand 2 émissions sont consacrées à un même sujet. Chaque production est ciselée au mot près, il y a peu d'ambiance, peu de place à la prise de son, la plume et le récit sont en revanche omniprésents. Cela fait longtemps que je veux vous parler de cette émission, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire dans la longueur avec des entretiens, des passages traduits. J'espère que mes voyages futurs me permettront de vous faire découvrir l'univers de This American Life. Si vous avez quelques minutes et que votre anglais est bon, je vous propose sur l'Atelier des médias une sélection d'épisodes qui m'ont marqué. Comme This American Life, il y a beaucoup de productions, d'émissions, de projets que nous aimons à l'atelier, mais que nous n'avons jamais eu l'occasion de vous présenter. Pendant l'heure qui va suivre, nous allons tenter de rattraper le temps perdu et partager avec vous nos coups de cœur.
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous,
cœur de l'atelier, ce sont des émissions, des reportages, des productions multimédia, des revues dont on ne vous a pas suffisamment ou pas du tout parlé par le passé et sur lesquelles chacune et chacun des collaborateurs de l'atelier souhaite revenir. Émission spéciale découverte donc aujourd'hui. Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadaoui, Johnny Bissakonou, Simon De Creuse prennent le micro pour vous parler dans le désordre du tribunal d'Ouzbek Erika, de la revue Schnock, du réseau Reddit, du blogueur Mondoblog Valérie Moïse en Haïti et de plein d'autres sujets. J'ai donné carte blanche à chacune et chacun avec pour seul mot d'ordre de s'adresser à vous directement avec leurs mots et la narration de leur choix. Comme toujours, l'émission est orchestrée par Simon De Creuse qui met son talent à contribution pour accompagner les histoires de chacune et chacun.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Bonjour, c'est Manon Mella.
Bonjour, c'est Johnny Bissakonou.
Salut, l'Atelier des médias, c'est Marie-Catherine à San Francisco.
Salut, c'est Raphaël Constant.
Bonjour, bonjour à tous. Je suis Dilette Lilia de l'équipe Mondoblog.
Bonjour à tous, c'est Simon au micro.
Bonjour à vous, chers auditeurs. Ici Francis Pisani qui vous parle depuis Barcelone où, clin d'œil à mon ami Ziad, ça va très bien. Presque tous les soirs, je retrouve avec plaisir Zeit, Z-I-T-E, cette petite machine magique à découvrir de nouvelles pistes, de nouveaux sites. Le principe est simple, il se joue en 3 temps. Vous vous inscrivez d'abord avec Facebook et ou Twitter, ce qui donne à Zeit une base pour deviner ce qui vous intéresse parmi les 40 000 thèmes déjà repérés. Puis vous choisissez des sujets du genre innovation et villes intelligentes ou Brésil, Singapour et créativité pour prendre quelques exemples de mon propre compte, mais cela peut être aussi bien yoga, mode ou basketball. Enfin, de chaque article proposé par Zeit, vous pouvez indiquer qu'il vous intéresse ou pas. Et c'est là le génie de cette technologie. Le système apprend de vos choix et sélectionne de façon chaque fois plus appropriée. Par exemple, j'ai choisi la catégorie Kenya avant d'y faire mon premier voyage, mais les articles choisis parlaient surtout de coureurs de marathon. J'ai rejeté ces suggestions et signalé mon intérêt pour les start-up et la téléphonie mobile. En quelques jours, Zeit avait compris. J'adore parce que ça me permet de découvrir des pistes auxquelles je n'aurais pas nécessairement pensé et des sites que je ne connais pas. C'est différent de la recherche sur Google ou sur Bing, toujours limitée par la question que je pose. C'est aussi différent du recours au flux RSS qui ne puise que dans les sources que je connais. C'est également différent de Twitter, très varié, mais qui tend vite à me submerger sous un tsunami de pistes sans me dire clairement où elles mènent. Seulement disponible sur mobile et sur tablette, Zeit alimente ma curiosité et m'ouvre sur le monde, non pas tous azimuts, ce qui me perdrait, mais dans des champs qui m'intéressent sans les restreindre à ce que j'y ai déjà repéré. C'est de là que vient mon vrai plaisir. Surtout, ne vous en privez pas. Ceci dit, j'ai encore un petit plaisir à vous signaler dans un domaine très différent, mais toujours dans la même logique d'ouverture. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt « A History of Future Cities » que l'on peut traduire par « Une histoire des villes futures ». Il s'agit de Saint-Pétersbourg en Russie, Shanghai en Chine, Mumbai en Inde et Dubaï dans la péninsule arabique. Quatre villes créées pour ouvrir l'Est à l'Ouest, selon l'auteur Daniel Brook. Elles sont beaucoup plus ouvertes au monde que Moscou, Beijing et Delhi pour les trois premières, et que les autres villes de la région pour Dubaï. L'élément clé, c'est que toutes ces villes sont des ports, et c'est par elles que le changement arrive dans leur pays. Mais nous aurions tort, sans doute, de limiter la tendance à l'ouverture de l'Est sur l'Ouest. Cherchez le port autour de vous. New York ouvre bien les États-Unis au monde, comme Barcelone d'ailleurs a longtemps ouvert l'Espagne à l'Europe et à la Méditerranée. C'est de là que je mets un terme à cette chronique en espérant qu'elle aura contribué à nourrir votre esprit, ouvert bien sûr, puisque vous écoutez l'Atelier des médias. À la semaine prochaine.
RFI. On est face à un raz-de-marée numérique, une révolution digitale qui change toute la société, qui change l'économie, évidemment provoquée par l'arrivée d'Internet. Et face à ça, on a des acteurs des médias qui n'en profitent pas, qui n'arrivent pas à s'adapter, qui n'arrivent pas à profiter de cette révolution numérique pour continuer leur métier, c'est-à-dire fournir des informations au reste de la société.
Je crois que les journalistes en France devraient redescendre un peu dans la rue, redescendre un peu de leur piédestal en ce qui concerne les vedettes, et vivre dans la vie de tout le monde.
Je suis Florent Morin, fondateur et président de The Pixel Hunt. Je suis aussi le seul employé dans cette société. Et je fabrique des objets ludiques, des jeux vidéo, qui ont pour but de transmettre l'information journalistique, documentaire. Ça peut m'arriver aussi de faire un petit peu de communication pour les organismes publics.
Salut, c'est Raphaël Constant. Lui, c'est donc Florent Morin. Il dirige The Pixel Hunt et a participé à la réalisation du reportage fiction Reconstruire Haïti, un récit multimédia en 6 chapitres signé Jean Abiatessi, Pierre Morel et Perceval Barrier. Ce projet publié en juin est pour moi une des plus grandes réussites de l'année 2014 et il vient d'ailleurs de recevoir le prix de la meilleure initiative de journalisme en ligne dans le monde à la conférence ONA de Chicago. Reconstruire Haïti s'intéresse à ce qu'est devenu ce pays 4 ans après le séisme de 2010 en mélangeant du reportage traditionnel et du jeu vidéo. On parle en anglais de news game, de jeux informatifs. Florent Morin, lui, signe la partie ludique de ce reportage interactif.
Au départ, c'est Jean Abiatessi qui est venu me voir et qui m'a dit « Voilà, moi j'adore Haïti, je suis allé plusieurs fois en reportage, je trouve que c'est un pays très touchant, et notamment à cause de la tragédie qui lui est arrivée. Et je voudrais faire un reportage sur la reconstruction de ce pays et sur les problèmes que ça pose, les questions que ça pose. Mais je voudrais en faire quelque chose d'interactif. Je voudrais amener les gens à réfléchir au sujet autrement. » Et ensemble, on a imaginé le mécanisme interactif qui est au cœur de Rebuilding Haïti, Reconstruire Haïti. Alors, on l'appelle reportage fiction parce que c'est d'abord un reportage. Ça, c'est Jean qui avait vraiment envie d'une chose, c'est de pouvoir prendre son temps et d'y aller 15 jours et de faire un reportage avec 5 grandes thématiques abordées en profondeur. Mais c'est aussi une fiction, c'est-à-dire qu'à la fin de chacune des 5 parties, on bascule dans une zone sur fond jaune, qu'on a mis sur fond jaune volontairement pour indiquer qu'on basculait dans l'univers de la fiction. De la même manière, c'est illustré par des illustrations et plus par des photos, donc c'est très clair pour le lecteur qu'il est du côté de la fiction. Et à ce moment-là, on dit au lecteur, et vous, Si vous étiez dans telle ou telle situation, quel choix est-ce que vous feriez? Si vous étiez le ministre de l'Agriculture, si vous étiez le maire de Port-au-Prince, si vous étiez un dirigeant d'ONG, quel choix est-ce que vous feriez dans telle ou telle situation? Le but de ça, c'est que l'utilisateur, qui peut-être se disait « Ah mais moi, si j'étais aux commandes d'IT, ça ferait bien longtemps que les problèmes seraient réglés, avec tout l'argent qu'ils ont eu après le tremblement de terre, comment ça se fait ?» et de lui faire comprendre qu'en fait, les problématiques au cœur de la reconstruction d'IT sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut imaginer au premier abord. Quand vous êtes dans le reportage à la tête d'une ONG, on vous demande si vous voulez... assez rapidement, vous vous rendez compte que le problème, c'est l'accès à l'eau potable. Et on vous demande si vous voulez faire venir vos techniciens français, par exemple, qui vont venir installer une pompe flambant neuve très efficace et qui va amener de l'eau potable dans les quartiers, ou est-ce que vous voulez rentrer en contact avec le ministère public haïtien et essayer de travailler main dans la main avec les Haïtiens pour améliorer le réseau d'eau potable.
Malgré leur volonté, les hommes se brisent. Le vent est tempête et l'eau s'y brise. Un cœur peu dur voit l'eau si grise, une âme perdue voit l'autre qui grise. L'innocence ne sert à rien avant la fin. Quand la terre appelle l'homme, c'est souvent avec rage. Les gens meurent et souvent ils avaient faim, comme ces mots, ces souvenirs qui s'animent dans l'ancrage. Notre histoire est construite en briques de sang. J'ai peur d'un millénaire, pour l'instant on n'a que 200. La nature nous oblige à ramasser des corps. Quand viendra le jour, on amassera de l'or. Combien de milliers de bras on va baisser? Combien de milliers de vies on a laissé saigner? Au nom de tous ces milliers de décès, mille fois sur mille, je propose qu'on réessaie de s'aimer.
À un moment, dans une production journalistique, on peut avoir recours à des mécaniques de jeux vidéo pour faire passer le message différemment. C'est-à-dire que quand on produit un article, on construit un discours. C'est moi qui décide de l'intro, du développement et de la conclusion, et le lecteur le reçoit comme un discours, c'est-à-dire qu'il le lit. Ce qu'on essaie de faire avec le News Game, c'est d'installer plutôt une discussion. C'est-à-dire de dire au lecteur, alors dans cette situation, en fait, il y a plusieurs possibilités, et choisis une possibilité. Et quand il choisit cette possibilité, on lui répond en lui disant, voilà les conséquences du choix que t'as fait, c'est celle-là et celle-là. Alors, c'est vraiment pour attirer l'attention du lecteur sur le double régime de conséquences. Les conséquences à court terme et les conséquences à long terme. En fait, il n'y a pas vraiment 6 parties dans Reconstruire Haïti. Il y en a 5 plus 1. 5 parties parce qu'on a sur 5 thématiques, l'agriculture, l'éducation, l'urbanisation, et qu'à la fin de chacune de ces parties, on vous pose des questions et on vous demande de prendre des décisions qui vont avoir des conséquences à court terme. Et on s'arrête là, et on enchaîne sur la partie suivante. Seulement la 6e partie, c'est la compilation des conséquences à long terme des choix que vous avez faits dans les 5 premières parties. Donc on est sur une 6e partie, qui est une partie là pour le coup complètement fictionnelle, mais qui s'est construite automatiquement en fonction des choix que vous, lecteur, vous avez fait dans les 5 premières parties. Donc ce qu'on voulait, c'était vraiment, premièrement, faire une expérience de lecture qui était vraiment contextuelle par rapport aux choix de chaque utilisateur. Il y a beaucoup de combinaisons possibles, donc beaucoup d'expériences de lecture différentes. Et deuxièmement, faire réfléchir au télescopage qu'il peut y avoir entre les conséquences à court terme que vous avez à la fin de chaque chapitre et les conséquences à long terme que vous avez toutes regroupées dans le 6e chapitre. Donc on est sur un mode de transmission de l'information qui est différent. On passe du régime du discours au régime de la discussion. C'est pas mieux, c'est pas les news games, c'est l'avenir du journalisme et bientôt tout sera fait en jeu vidéo, mais c'est différent. Et pour certains sujets, en l'occurrence nous on était persuadés que pour un sujet aussi complexe que celui-là, c'était vraiment adapté.
Merci Florent Morin.
De rien, avec plaisir.
Pour écouter la version longue de mon entretien avec Florent Morin, vous trouverez bien sûr un article et des liens vers le reportage fiction Reconstruire Haïti sur l'Atelier des médias.
Salut l'Atelier des médias, c'est Marie-Catherine à San Francisco. Vous allez trouver que je suis vraiment pleine de contradictions, mais tant pis. À longueur de chronique, je vous parle d'innovation urgente, de réinvention permanente et de prototypes rapides. Et pourtant, le site média qui me plaît le plus aujourd'hui est un site qui me séduit depuis 2 ans. Le site en question s'appelle Quartz. Il a été lancé en 2012 par plusieurs journalistes économiques et est affilié au magazine The Atlantic. Il couvre l'actualité économique pour un monde globalisé et il continue de me ravir jour après jour. Quartz est un média avec un design de grande qualité. Visuellement, il est épuré, il est impeccable. Que l'on lise Quartz sur son mobile ou sur un ordinateur. Plus remarquable encore, quelque chose qui me fascine vraiment, j'ai découvert il y a quelques mois que derrière cette élégance graphique se cache une prouesse technologique. En effet, Quartz vous présente tous ses articles sous forme d'un flux continu. C'est une sorte de papyrus numérique. Donc l'utilisateur ne change jamais de page. Mais en revanche, l'URL, c'est-à-dire l'adresse internet, change quand on change d'article sur la même page. Cela permet d'un côté de partager facilement des articles sur les réseaux sociaux, sans jamais déranger l'expérience de lecture. Bon, et alors ? Des sites médias qui ont des jolis designs, on en a vu d'autres. Il me semble que Quartz se démarque aussi parce qu'il ne s'est pas contenté d'innover en termes de présentation. Ses contenus aussi sont innovants. On est toujours sûr de trouver sur Quartz un angle abordé nulle part ailleurs. On quitte Quartz en ayant appris quelque chose de nouveau, en ayant compris une actualité qui est tendance, ou en portant un regard neuf sur une actualité qui domine les autres journaux. Pour cela, Quartz compte sur ses journalistes et leurs obsessions. Autre raison, je pense, qui rend Quartz particulièrement intéressant, séduisant et intrigant, c'est que alors que ça pleurniche dans tous les coins sur l'absence de modèle économique, eh bien Quartz semble avoir trouvé une plutôt jolie formule publicitaire. Oui, il y a des bannières publicitaires sur le site, mais elles se fondent très bien dans le décor du média et correspondent très bien au mode de navigation que Quartz a imaginé. Ensuite, il y a des contenus sponsorisés par des marques qui sont éloignés du sujet, mais proche du lectorat, proche de la cible. Ainsi, ce format publicitaire permet d'apporter des revenus aux médias sans jamais pourrir l'expérience de l'utilisateur. Et enfin, en réfléchissant bien, il y a peut-être une dernière raison qui explique pourquoi Quartz a réussi à conserver ma fidélité au fil des ans. Et je pense que c'est la cerise sur le gâteau, une très chouette newsletter. Elle est très bien écrite, elle est surtout très bien alimentée. Tous les matins, selon que je sois en Asie, en Europe, aux Amériques, je reçois une lettre qui me propose des articles originaux de Quartz, mais aussi des trouvailles inédites dans d'autres médias, des trouvailles inédites qui correspondent toujours à cette ligne éditoriale très particulière de Quartz. Comprendre le monde globalisé dans lequel on vit, en prenant des chemins de traverse en quelque sorte. Voilà, donc 2 ans que cette histoire dure. Je pense qu'il y en a encore pour 2 ans entre Quartz et moi. Je vous encourage vraiment à courir, découvrir ce qu'est Quartz à l'adresse qz.com. Foncez vous en inspirer ou courez voir ce qui s'y passe. À la semaine prochaine et bonne découverte.
RFII.
Bonjour. C'est Johnny Bisakonou. Je suis pigiste à l'atelier des médias et j'interviens dans plusieurs médias audiovisuels et sites internet. Je tiens à vous faire découvrir 24 heures dans une rédaction. C'est un site internet. Je l'ai découvert quand j'avais pour mission d'installer des radios communautaires dans les villages du sud-est de la Centrafrique. Il fallait en même temps former les personnels de ces radios aux techniques de production radiophonique. Moi-même, à la base, j'ai eu une formation de juriste. Quand j'ai eu mon bac en 2003, le département du journalisme n'était pas encore ouvert à l'université de Bangui ou en Centrafrique où je vivais. J'ai commencé à faire de la radio avant de m'inscrire à des formations spécifiques en journalisme. Mais au départ, j'ai commencé à apprendre ce métier en le pratiquant. C'est pourquoi je souhaite partager cet outil qui aidera certainement les gens qui sont dans la situation où je me trouvais quand je suis entré dans le métier de l'information. 24 heures dans une rédaction est un site internet lancé par CFI en collaboration avec l'École supérieure de journalisme de Lille et qui est destiné à tous ceux qui pratiquent ou s'intéressent au métier de l'information. Si vous êtes journaliste radio et que vous voulez vous reconvertir en journaliste télé ou en presse écrite, si vous voulez vous recycler ou si vous êtes blogueur, ce site est conçu pour vous. Les formateurs, les professeurs de journalisme peuvent également s'inspirer de ces leçons pour préparer les cours pratiques. 24 heures dans une rédaction, c'est l'œuvre de professionnels de la presse en collaboration avec l'une des plus prestigieuses écoles de journalisme au monde, qui vous partage les astuces, les bonnes pratiques et les arcanes du journalisme. En gros, une centaine de leçons consultables en 6 langues, le français, l'anglais, l'arabe, l'indonésien, le chinois, le vietnamien et le swahili. Toutes ces leçons sont téléchargeables pour ceux qui veulent avoir des versions imprimées. 24 heures dans une rédaction comporte 5 rubriques, télé, radio, web, presse écrite et chaque rubrique comporte 24 leçons de journalisme. Le site est conçu de manière à ce qu'on puisse surfer facilement pour retrouver ce qu'on cherche. Si vous êtes connecté à Internet et que vous vous intéressez au métier de l'information, un petit détour sur les www.24heuresdansunerédaction.com vaut vraiment le coup.
Courte pause, on respire un instant dans l'atelier, on se retrouve juste après.
Rediff.
rediffusion cette semaine dans l'Atelier des médias.
Vous écoutez l'Atelier des médias. Cette semaine, l'équipe de l'Atelier a choisi de partager avec vous ses coups de cœur. À suivre dans cette partie, le choix de Simon avec le réseau social de partage d'informations Reddit. Le clin d'œil de Dilett Sadaoui à Valérie Moïse, l'un de nos mondoblogueurs basé en Haïti. Le reportage de Manon Mella à la Gaîté Lyrique pour assister au tribunal pour les générations futures d'Ouzbek Erika. Et pour ma part, j'ai rendez-vous dans une dizaine de minutes avec Christophe Ernaud, rédacteur en chef et co-concepteur de la revue Schnock, qui se trouve bien entendu être une de mes lectures favorites.
L'Atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf. Simon de Creuse.
Et vous, vous.
Bonjour à tous, c'est Simon au micro. Vous voulez un bon plan, un vrai conseil? Si votre mère est sur le même réseau social que vous, c'est qu'il est temps de bouger sur notre plateforme, non? Je sais que votre maman regarde vos statuts sur Facebook. Pire, elle les like. Moi j'ai un truc, je me dis toujours que les réseaux sociaux, c'est comme une fête à laquelle vous êtes invité. Vous pouvez rester dans votre coin, regarder les autres s'amuser, ou vous pouvez y passer la musique et attirer toute l'attention. À vous de choisir. Aller sur Facebook, c'est comme aller à la fête du village. Beaucoup de monde, mais finalement, vous voyez toujours les mêmes. Pas la peine d'essayer d'élever le débat, celui qui attire l'attention, c'est celui qui connaît toutes les blagues, ou celle qui est la plus jolie. Et puis sur Facebook, faut surtout pas parler politique. C'est pire qu'un repas de famille. Ce n'est pas tant que vous allez engendrer des débats, juste des rancunes. Car dans une soirée Facebook, la seule expression permise, c'est « j'aime ». Vous allez vous servir un verre, « j'aime ». Vous croisez une jolie blonde. J'aime. Elle est accompagnée par Nicolas Sarkozy. Vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai arrêté la fête au village. Je m'intéresse à plein de choses et puis j'ai pas nécessairement besoin d'être d'accord avec les gens avec qui je discute. Ce que je veux au fond, c'est pouvoir partager ce que je sais ou crois savoir, entendre ce que je ne sais pas, dire ce que je pense et écouter ce à quoi je n'ai pas encore pensé. Et je ne veux pas qu'un algorithme m'impose les choses qui pourraient m'intéresser. Un jour, j'ai reçu un carton d'invitation, une soirée Reddit. On m'avait dit « Tu vas voir, l'endroit est très moche, mais les gens sont sympas ». Vu que je sortais d'une soirée 4chan, où l'endroit ressemblait à un peep show de Pigalle et où les gens étaient tous mythomanes, je me suis dit « Pourquoi pas ?». Première soirée, le chaos. J'ai rien compris. Trop de choses, trop de gens. Ils avaient beau avoir la réputation d'être sympas, je comprenais pas forcément tout ce qui s'y passait. Le lendemain, pendant ma longue journée de surf sur Internet, je croisais par-ci par-là des liens rencontrés à la soirée d'hier. Un gif animé, une photo incroyable, un article intéressant. Le surlendemain, encore plus de choses, de liens. Et surtout, la petite vidéo que tout le monde s'échangeait sur les réseaux, c'était à la soirée Reddit que je l'avais vue en premier. Je me dis, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Depuis, je ne rate jamais une occasion d'aller aux soirées Reddit. J'y ai discuté avec Barack Obama, oui, les Monty Python, Bill Gates, Buzz Aldrin, le pouli d'or du voyage sur la Lune, un type charmant. L'endroit est moche, c'est vrai, mais tout y est modulable. Je peux choisir d'avoir le meilleur ou le plus frais, le plus beau et le plus moche, le plus intelligent comme le plus idiot. Quasi pas de censure. Là-bas, on like, on aime, mais on n'aime pas aussi, et ça change pas mal de choses. Tout le monde s'entraide, et surtout on a l'impression que tout le monde y est actif. Tout le monde fait de son mieux pour que tout s'y passe bien. On rassure les déprimés, on encourage ceux qui réussissent. Les conversations y sont courtoises, souvent pleines d'humour et parfois savantes. J'imagine que vous me croyez snob, que je cherche le dernier endroit à la mode et que je fuis la foule, le peuple, pour me réfugier dans le nouveau temple débranché. Eh bien, pour votre information, Reddit fêtera ses 10 ans l'année prochaine. Reddit est également le 43e site le plus visité dans le monde connecté, juste derrière celui de Microsoft. Je crois bien que les gens derrière Reddit et surtout la communauté qui compose le site ont réussi à inventer un réseau social populaire tout en restant élitiste. Je dédie cette chronique à Laurent Chaffard du Service Afrique qui saura désormais où je passe mes nuits. A bientôt et bonne journée sur RFI.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Bonjour, bonjour à tous. Je suis Dilett Lilia de l'équipe Mondoblog et mon coup de cœur va, ne soyez pas surpris, à un auteur de notre communauté. Chaque jour, j'ai le privilège de vous rencontrer au travers de vos billets. Il y a des billets d'humour, d'autres qui émeuvent, qui interpellent. J'entends parfois des grincements de dents, des cris de colère, de détresse. Et dans cet éventail de tonalités, il y a un timbre particulier, comme une énergie douce, la voix du mondoblogueur Valérie Moïse. Son univers, Haïti, un pays à reconstruire, une île au bord du désespoir. 4 ans après le séisme, les sans-abri se multiplient, les hôpitaux ne sont que des miroirs. Valérie Moïse raconte la survie au quotidien de milliers de personnes, la détresse de nombreux jeunes livrés à eux-mêmes, la souffrance, notamment celle des enfants, plus vulnérables. S'il témoigne avec sensibilité des déceptions, le docteur Moïse dit aussi l'attente, car il ne peut accepter que les choses restent en l'état, ce qu'il appelle la démocratie qui instaure la dictature de la misère. Des propos, des mots qui frappent notre conscience. Son blog, Haïti, A-Y-I-T-I, Terre Promise.
R-F-I.
Je déclare ouvert le 12e tribunal pour les générations futures. Ce soir, vous allez assister au procès de Lucas Chira, artiste et body hacker de son état.
Bonjour, c'est Manon Mella. Vous connaissez peut-être le magazine Ouzbek Erika, on en a déjà parlé dans l'atelier des médias. Moi, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est les événements qu'ils organisent à côté du magazine. Du coup, je suis partie en reportage pour assister à leur tribunal pour les générations futures. Je m'explique. Tous les 3 mois, Ouzbek Erika, le magazine qui explore le futur, organise à la Gaîté Lyrique à Paris un débat autour d'une question pour tenter de comprendre les révolutions en cours dans le monde. Mais il ne s'agit pas d'une conférence classique. Ouzbek Erika a choisi une forme ludique et dynamique en scénarisant à la manière d'un procès d'assises la question portée par le magazine. La semaine dernière, cette question était « Faut-il trafiquer son corps ?» Tous les personnages classiques d'un tribunal y étaient incarnés. Procureur, témoin, véritable avocat du barreau de Paris pour la défense de l'accusé, mais aussi des jurés tirés au sort parmi le public. Je me suis demandé quel est l'intérêt pour un magazine papier comme Ouzbek Erika d'organiser des événements en dehors du magazine lui-même, et qui plus est, pourquoi avoir choisi les codes d'un procès d'assises. Blaise Mao, rédacteur en chef adjoint du magazine, et certains spectateurs venus assister à l'événement mercredi dernier répondent à ces questions.
Alors en fait, on a créé cet événement en 2011, au moment où la Gaîté Lyrique rouvrait ses portes après plusieurs années de travaux. Ils nous ont contactés pour proposer une formule originale de conférence. Et nous, on s'est dit, en général, dans les conférences, c'est toujours un peu la même chose. On voit 4 intellectuels avec des verres d'eau assis derrière leur estrade. Et on s'ennuie un peu, quoi. Ça dure toujours trop longtemps, on s'embête un peu. Même quand les gens sont passionnants ou qu'ils ont des choses à dire qui sont originales, on s'embête un peu. Donc l'idée, c'était de réfléchir à une formule un peu nouvelle. On a pensé, en cogitant, à la question de monter un faux procès, en fait, de réutiliser les codes d'un tribunal classique, avec un jeu de rôle, avec un procureur, avec un accusé, avec un témoin, avec des jurés qu'on pourrait tirer au sort dans le public. Et on a en fait dupliqué cette forme judiciaire dans un débat d'idées. On a fait plusieurs types de tribunaux déjà, faut-il trafiquer son corps, qui était le dernier en date. On avait fait sommes-nous condamnés au vintage, sommes-nous trop nombreux sur Terre, le capitalisme va-t-il mourir. Voilà, à chaque fois on pose une grande question, et avec 4 invités, et la salle qui participe aussi au débat.
Alors pourquoi avoir choisi en fait le format du procès et du tribunal ?
Parce que la scénographie d'un procès est très théâtrale et qu'elle permet malgré tout d'être dans à la fois des exercices d'éloquence, des présentations orales spectaculaires et qu'elle ne desserve pas le fond, les idées. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de faire en sorte que la forme nourrisse le fond. C'est un exercice qui n'est pas simple. Il faut avoir les bonnes personnes qui sont capables quand même de jouer un peu un rôle tout en défendant des idées de fond. Donc on leur demande quand même de travailler un peu sur la forme, parce qu'en général on fait appel à des gens qui sur le fond sont bons. On va pas forcément à chaque fois mettre des costumes, des perruques, c'est pas l'objet, même s'il y a des petits accessoires et plein de petits codes qui sont ceux d'un tribunal. Mais voilà, on est dans la dramatisation en fait, volontaire, Et ça fonctionne plutôt bien, quel que soit le sujet dont on parle. Encore une fois, on peut parler de démographie, d'économie, des animaux, ou bien de trafiquer son corps. On peut organiser des procès sur tout. Et que ce soit le procureur, le témoin, ils montent à la barre pour s'exprimer, ils reviennent à leur place. Les jurés qui sont tirés au sort dans la salle, donc qui sont des gens du public, qui ne savent pas qu'ils vont être jurés, on tire au sort leur numéro en fonction de leur numéro de chaise. Et ils se retrouvent à être sur le côté de la scène et à devoir suivre encore plus attentivement les débats pour pouvoir trancher à la fin. C'est eux qui rendent le verdict. Ils sortent pour délibérer, ils reviennent pour donner le verdict. Donc il y a un jeu, une participation physique et intellectuelle du public. Ça, c'est important. Que le public soit pas simplement spectateur.
Bonjour, je m'appelle Marie et je suis gestionnaire paye. Qu'est-ce que tu penses du format du tribunal ? Alors moi je trouve que c'est hyper ludique, ça permet de se mettre dans le sujet plus facilement. Alors il y a certaines références que j'avais pas, mais du coup on s'est vraiment mis dans le sujet. Je trouve ça abordable.
Ça m'intéresse vraiment puisque moi j'organise des débats citoyens sur justement ces modes de vie du futur. Et c'est un format qui permet un peu une interaction avec le public qui est assez original et que j'aimerais pourquoi pas du coup reproduire moi aussi dans mes ateliers, parce qu'il permet de sortir du cadre d'une conférence.
Je trouve ça, alors ça questionne, ça pose des questions, je trouve ça assez génial qu'on puisse s'interroger sur des problématiques assez épineuses à plusieurs en fait, ensemble. Et le format du tribunal, je le trouve assez... Alors, il y a une mise en scène qui est hyper bien trouvée, c'est assez théâtralisé. Après, ça dépend évidemment aussi de chaque intervenant, hein, qui joue le jeu plus ou moins ou qui savent le faire. Tout le monde n'est pas orateur. Mais du coup, ça donne une dimension assez ludique, en fait, à ce genre de débat. Bravo pour la créativité. Après, ouais, un peu comme... Enfin, c'est des questions qui demanderaient vachement plus de travail sur le fond, qui demanderaient plus de temps, donc ça va très vite, c'est très court, et évidemment tout le monde ne peut pas exprimer son point de vue en fait. Donc ensuite c'est à la charge de chacun, à chaque spectateur, d'aller continuer en fait de se renseigner sur le sujet en question, quoi.
Et alors quel est l'intérêt pour un média d'organiser des événements en dehors du magazine papier ?
Alors nous, on a toujours été dans cette optique-là, c'est-à-dire Ouzbek Erika, c'est pas juste un magazine papier qui sort tous les 3 mois. On a lancé une collection de livres, on travaille aujourd'hui encore sur d'autres projets, on a lancé aussi plein d'autres magazines, de sites internet pour lesquels on collabore. Mais c'était une déclinaison naturelle pour nous, à partir du moment où on explore le futur, de concrétiser ça dans un lieu physique et de rencontrer aussi des gens, de former une communauté de gens qui nous suivent et avec qui on peut avancer main dans la main. Et ça se traduit voilà par un événement spectaculaire et je pense assez chaleureux qui correspond en plus à l'identité du journal. Mais oui. C'était vraiment important de faire ce pas dans le monde physique et pas juste de rester coincé dans le monde des idées.
Et qu'est-ce que vous attendez de ces tribunaux ?
Alors on attend que les gens qui viennent nous voir repartent enchantés et avec matière à réflexion. Faut pas oublier que c'est un débat d'idées. Un tribunal réussi, c'est un tribunal où les gens auront appris des choses et où les cartes auront été un peu brouillées. Je pense que même si à la fin il y a un verdict et on tranche au nom des générations futures en disant oui, il est accusé, oui, il est coupable, oui, il faut faire moins d'enfants, non, il faut faire plus d'enfants, il y a un verdict, mais c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est que les gens aient pu entendre des arguments valables dans les deux camps et qu'ils aient un peu, qu'ils aient tous les ingrédients pour mieux comprendre une problématique. Quelqu'un qui connaît rien à la question de la démographie ou du capitalisme ou du body hacking doit sortir de cette heure et demie de débat en pouvant tout à fait en parler, quoi.
Merci.
Merci à vous.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues et des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. On est con. On est 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Bonjour Christophe.
Bonjour.
Tu
Tu es écrivain, musicien sous le nom d'Alistair et rédacteur en chef et concepteur d'une revue lancée en mai 2011 qui s'appelle Schnock.
Ouais, en effet, ouais, donc ça fait beaucoup, mais ouais, on a lancé Schnock il y a 3 ans maintenant et on en est au numéro 12 maintenant, donc voilà, ça marche, ça grandit, ça continue déjà, c'est formidable, donc voilà, une revue qui parle du passé, mais de façon dynamique, sans être trop nostalgique, voilà.
Le surtitre de cette revue marque les esprits quand on le découvre. Il y a écrit « La revue des vieux de 27 à 87 ans ».
Ouais, c'est un clin d'œil au journal de Tintin. Voilà. Et puis on pensait que c'était aussi une bonne tagline pour dire qu'on n'allait pas chercher, contrairement à beaucoup d'objets aujourd'hui culturels, on n'allait pas chercher les adolescents dès leurs 13 ans pour les intéresser. On voulait passer aussi à côté des gouttes un peu marketing et... cette espèce d'apologie permanente de la jeunesse que nous sert la société aujourd'hui. Donc voilà, on voulait prendre notre temps, parler de choses en effet qui dataient un peu, mais en étant, je répète, dynamique et malin, quoi. Donc voilà, donc c'est ça le projet de la revue.
Alors on va parler de la revue, on va parler aussi de son esthétique qui est très importante, de son esprit, de son ton. Avant cela, on peut peut-être s'arrêter sur le nom. Schnock, c'est un mot typique de la langue française. Qu'est-ce que c'est ce nom? Qu'est-ce que c'est ce mot pour vous? Comment vous le comprenez, le mot Schnock?
Ah, le mot Schnock, on va dire que c'est évidemment que c'est plutôt germanique et en l'occurrence, je pense que la répercussion, la récupération en France du mot Schnock vient de l'Alsace en fait, ou du Yiddish. Donc ça veut dire un vieux fou en gros, hein, qui s'est plus ou moins avec les années transformé en vieux con. Il y a un côté sympathique, c'est-à-dire c'est un vieux Schnock, bon, il est fou. Mais on l'aime bien quand même, quoi. Voilà, c'est un peu le fou du village. Voilà, mais je dois vous dire qu'au début, quand on a lancé cette revue, on était complètement irresponsable. On pensait pas que ça allait durer 3 ans. On a lancé ça pour se marrer, donc évidemment choisir aujourd'hui le mot Schnock, ça sent complètement insensé, quoi. Mais
il y a une forme de désuétude dans le mot Schnock. C'est une insulte un peu désuète, ouais. Et du coup qui fait un petit peu un clin d'œil et puis qui est dans le ton finalement de ce qui vous intéresse, parce que vous vous intéressez en fait dans cette revue, on va peut-être en parler plus, mais vous vous intéressez à une forme de culture populaire qui est désuète mais qui a encore une énergie et une force qu'on soupçonne pas finalement.
Exactement, c'est exactement ça, vous avez très bien résumé. Il y a le côté passé, puis il y a le côté revue, c'est-à-dire qu'au début, on voulait faire on n'a pas fait un magazine, on a fait une revue, parce qu'on voulait prendre le temps, on voulait avoir des papiers longs, où on allait au fond des choses. Donc on a voulu associer en même temps, la couverture est dessinée, c'est marrant, le nom est marrant, mais à chaque fois, on a de longs articles, des choses creusées, des interviews inédites. Donc il y a un vrai travail derrière de, je vais dire un peu pompeusement, mais de sauvegarde du patrimoine, en tout cas de récupérer la voix de tous ces gens qui ont vécu cette époque et qui nous racontent leurs souvenirs avec délectation.
Ah oui, certainement.
Excusez-moi, à cette heure-ci, c'est très difficile de trouver une table.
Oui, enfin.
Vous me direz, je pourrais toujours aller en face, mais l'ambiance n'est pas la même.
Oui, c'est moins agréable.
Mais vous me direz que si tout le monde allait en face, c'est ici que ça ne serait pas gay.
Absolument.
Voilà. Quelle différence y a-t-il entre les romans que vous avez écrits jusqu'à présent et le livre que vous écrivez?
Un vrai livre, c'est un livre où l'imagination, l'intelligence, la force, tout ça sont parfaitement accordés et font une chose, une œuvre. Moi, je suis trop paresseuse, trop pressée à la fois, j'ai trop de facilité à faire des choses, je triche un peu, enfin je sais pas.
Vous considérez comme une apprentie en ce moment?
Oui.
Les communistes ne sont pas des gens comme nous. Ils renversent les monarchies, ils bafouent les libertés et ils mangent les enfants. Certains même ne vont pas à la messe.
Météorite m'a percé le cœur. Sur la terre, vous avez des docteurs.
Quand nous avons commencé cette aventure avec Laurence Rémilla, donc là je vous cite, et Laurence Rémilla c'est donc la co-fondatrice et co-rédactrice en chef, en mai 2011, l'un de nos buts était humblement de revisiter, de dépoussiérer des pans de la culture populaire française en majorité, ça c'est entre parenthèses, laissés à l'abandon, en friche par des confrères légitimement concentrés sur leur propre ligne éditoriale.
Bien sûr, on vient d'une culture en France qui, en gros, depuis 40 ans, a été biberonnée par la nouvelle vague. En gros, pour résumer. C'est-à-dire une culture assez pointue, assez brillante. Je ne critique pas du tout ça. Et il y a une espèce d'école médiatique. Alors, je peux vous citer Télérama, Les Inrocks, Libé à sa grande époque, Le Monde.
Les cahiers du cinéma, même, tant qu'à faire.
Les cahiers du cinéma. Mais une fois de plus, tous ces gens avaient raison de défendre ce qu'ils aimaient. Sauf que la contre-proposition n'existait pas. Ou alors de façon gaguesque, c'est-à-dire quand on parlait de Coluche ou de Amanda Lear ou de Daniel Prévost, qui ont été en couverture de Schnock, c'était souvent de façon un peu ironique ou un peu... voilà. Nous, on voulait parler sérieusement d'une culture populaire qui évidemment est drôle et divertissante, mais en même temps derrière il y a du travail, il y a des gens qui inventent, il y a de l'imagination, il y a des artistes, et on voulait parler de tout ça de façon un peu littéraire, sans être pompeux, mais avec de longs articles, des gens qui aiment vraiment ça, sans trop d'ironie finalement, parce qu'on respecte énormément tous ces gens.
Et même quand vous explorez par exemple dans l'avant-dernier numéro le personnage de Brigitte Bardot, vous décidez immédiatement de mettre de côté toutes les frasques du personnage sur les 20-30 dernières années pour explorer son personnage populaire, son personnage d'actrice, et raconter ce qu'elle a pu représenter à l'époque, et finalement déterrer une image qui a été ternie par l'évolution du personnage, sa proximité de l'extrême droite, etc. Mais finalement réinformer sur la magie qu'elle a pu représenter, tout ce qu'elle a pu représenter dans la culture populaire française.
Bien sûr, hein, Brigitte Bardot est un personnage très français en ce sens-là, c'est-à-dire que c'est l'histoire, je vais pas dire d'une dérive, mais c'est l'histoire de quelqu'un qui vieillit déjà, tout simplement, c'est quelqu'un qui a 80 balais. Moi, quand on a fait le numéro de Bardot, évidemment qu'il y avait la problématique des 30 dernières années, mais quand on voit, c'est moi j'ai été fasciné par exemple, alors, pas par ses films, hein, par ses chansons plutôt, et surtout par ses interviews et ses conférences de presse dans les années 60 et tout ça. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'esprit, qui était... très maligne, très intelligente et tout ça. Donc quand on a la possibilité, même si on rappelle à deux, trois occasions les petites dérives qu'elle a commises, mais quand on a un personnage comme ça, on essaye d'être le plus juste possible d'une certaine façon. En la mettant en valeur évidemment, parce qu'elle a été importante, et puis c'était en plus d'être une belle nana, c'était une fille pas conne. Et en même temps de rappeler évidemment deux ou trois déliriums qu'elle a fait ces dernières années, d'ailleurs qui sont... Je dis des déliriums, c'est peut-être pas des déliriums, mais elle le pense sans doute, mais bon, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a 80 balais, quoi. Voilà.
Il y a des comédiens qui ont dit de vous, alors que vous faisiez des essais avec eux, c'est une honte de jouer aussi mal.
Ah oui.
De qui s'agissait-il?
Oh, alors tout le monde. Ça serait plus vite fait que je cite ceux qui l'ont pas dit, parce que.
Mais devient souffrir de ça quand même, non?
Alors, je me demandais s'ils avaient pas vraiment raison quand même.
Schnock, pour ceux qui ne voient pas, c'est une revue de petit format qui tient presque dans une grande poche, on va dire, et sa marque de fabrique, c'est déjà une couverture qui est dessinée, qui est donc en général une reprise de photographie, c'est ça, ou même pas, non?
Pas vraiment, alors il faudrait... la personne qui dessine les découpes s'appelle Erwan Terrier, c'est un dessinateur très talentueux, et il est plutôt dans un truc où justement il préfère réimaginer des personnages sans se baser sur des photos préexistantes. Donc ce qui fait qu'on a une identité assez forte dès qu'on croit Schnock dans une librairie, dès que le regard croit Schnock dans une librairie, je pense que ça, et notamment le Pierre Desproges, là, le dernier, qui est quand même, si ce n'est la meilleure, je dirais dans le top 3 des meilleures coupes de Schnock.
On y voit Pierre Desproges en costume avec un nœud papillon, tenant un cochon par les pattes et présentant une sorte de cochon à un public imaginaire.
Alors ça, c'est une scène qui était dans l'émission de Pierre Desproges, Monsieur Cyclopède, mais pas vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'en effet, là, ça existait, cette situation, et Erwan l'a re-esthétisé et en a fait un truc très symétrique et assez marrant.
Et du coup, ces couvertures présentent à chaque fois le personnage principal de la revue. Donc là, c'est la toute dernière en date, c'est Pierre Desproges. Juste avant, c'était Bardot. Il y a eu également Pierre Richard, l'acteur. Amanda Lear, donc présentatrice télé. Jean-Yann, chanteur, acteur. Serge Gainsbourg aussi, évidemment. Il y en a d'autres qu'on attend, qui sont pas encore arrivés. Peut-être Louis de Funès, qui n'est pas encore arrivé. D'autres, toutes ces figures de la culture populaire, parfois dénigrées, parfois oubliées, parfois souvent encore adorées quand même, comme Coluche aussi.
Bien sûr, et on essaye de bien garder le côté populaire, mais dans le sens connu, quoi, c'est-à-dire reconnaissable. Parce qu'en plus, un dessin, c'est dur, hein. Mais il y a ça déjà, et puis après, quand il y a une couve comme ça, il y a un dossier dans Dolchnok, par exemple là sur Desproges, il y aura une quarantaine de pages, mais à chaque fois c'est 40 ou 50 pages sur la couverture. Donc faut aussi que ça soit des gens qui aient une œuvre entre guillemets ou un travail derrière qui soit assez conséquent pour en faire 40 ou 50 pages. On peut pas meubler sur des gens qui n'ont rien fait. Et en l'occurrence, à l'époque, c'est des gens qui faisaient beaucoup de choses, hein, chansons, ciné, télé, tout ça. Voilà, ce qui est pas forcément le cas aujourd'hui. On reste quand même là sur des gens qu'on aime aussi, nous, quoi, qu'on respecte.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 356 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadawi, Julnar Douek, Raja Yahyaoui, Simon De Creuse, Johnny Bissakounou et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org et arablog.org. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.